Il est 6h. Info avec Valérie Blum. Bonjour Valérie.
Bonjour. Le cercle de Corcy aura besoin de 176 places de crèche pour accueillir tous les enfants de son territoire jusqu'en 2030. C'est ce que vient de révéler une étude commandée par Corsier-sur-Vevey, Corzeau, Chardonnay et Jonny. Elle visait à identifier les besoins du cercle qui dépend actuellement du réseau Enfance Vevey et environ pour accueillir ses jeunes résidents. Cela alors que Vevey pourrait décider demain de sortir du réseau. Et c'est justement en partie parce que le cercle craignait ce départ qu'il a lancé cette étude l'an dernier. Céline Murizier, municipale à Jonny et présidente de l'association scolaire intercommunale du cercle.
On s'est dit que ça sentait un petit peu le roussi, qu'on n'avait finalement pas de solution au niveau préscolaire, parce qu'au niveau UAPE, parascolaire, ça, on a des structures d'accueil. Mais c'est vrai que pour la toute petite enfance, on n'a pas de crèche. Donc c'est aussi de répondre à une réalité sociétale, j'ai envie de dire. C'est de pouvoir aussi offrir à nos administrés des places d'accueil qui ne sont pas simplement basées dans les grandes villes.
Pas question pour autant de créer un propre réseau au cercle. Les quatre communes attendent avant tout de connaître l'issue du débat veuvaisant pour savoir si des solutions d'urgence doivent être trouvées. Un sujet d'Isabelle Bertolini. Tout démolir pour reconstruire quelque chose de complètement différent, un modèle qui sera appliqué à Aigle pour le futur gymnase du Chablais. Le Grand Conseil vaudois a validé hier le crédit de 2,3 millions de francs. La somme servira à détruire les bâtiments qui se trouvent sur les parcelles acquises par l'État de Vaud et qui servaient jusqu'ici à l'ancien hôpital d'Aigle et à la fondation André Manzini. Il faudra faire preuve de prudence puisque du plomb, de l'amiante et d'autres matériaux pollués ont été identifiés dans certaines bâtisses à démanteler. Une mission qui n'effraie pas le conseiller d'État en charge des finances, Pascal Broulis, il l'a dit à Florian Barbet.
On sait que c'est un site qui était quand même utilisé, hein, avec une construction, avec forcément aussi sur une longue période, peut-être tout d'un coup, des petites fuites ou autres, mais qui sont pénibles. Hein, c'est pas, on n'est pas sur un site qui est pollué, un site hospitalier. Donc voilà, aujourd'hui, même pour l'amiante, on prend toutes les mesures en amont et ça se passe bien. Hein. Par exemple, quand on a démonté les anciennes halles, le CFF au milieu de la ville de Lausanne, elles étaient amiantées pour une partie, ça n'a posé aucun problème. Je crois que les entreprises de démolition sont expérimentées aujourd'hui et prennent toutes mesures suffisamment tôt pour qu'il n'y ait aucun problème.
Les travaux se feront en deux temps. Les bâtiments de l'ancien hôpital d'Aigle seront démolis en premier, puis ceux de la fondation André Manzini. Les locaux de cette dernière seront utilisés par l'administration Aiglonne et certains bureaux cantonaux de l'Office des poursuites et faillites et de la justice de paix. Le temps que l'hôtel de Ville d'Aigle soit rénové, les premiers élèves du futur gymnase du Chablais sont espérés pour la rentrée d'août 2022. Un sujet de Margot Reguin. Le personnel du CHUV a crié sa colère aujourd'hui à Lausanne. Une grève et une mobilisation sont prévues toute la journée au centre hospitalier. Parmi les revendications des collaborateurs et des syndicats, une extension et une augmentation de la prime Covid pour tout le personnel du CHUV et une amélioration des conditions de travail. Il faut dire qu'après 15 mois de crise Covid, les 10 000 collaborateurs du CHUV sont à bout. Heures supplémentaires, absences et autres congés maladie sont aujourd'hui un problème pour l'hôpital. À l'heure où la situation sanitaire est favorable et qu'ils tentent de reprendre ses activités, symbole de la situation tendue, seuls 11 blocs opératoires sur 13 sont opérationnels. Directeur général du CHUV, le professeur Philippe Eckert, dit entendre et comprendre cette lassitude du personnel.
C'est pour ça d'ailleurs que nous annonçons une reprise progressive de nos activités. Il est extrêmement important qu'en même temps, on réponde aux besoins de la population. On a un certain nombre d'interventions chirurgicales en retard, mais qu'aussi, on prenne soin de nos collaborateurs, qu'on leur laisse le temps de souffler après, au fond, l'effort qu'ils ont fourni pendant 15 mois.
Il y a une grève du personnel du CHUV, notamment avec cette pierre d'achoppement qui est la prime Covid. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette prime Covid?
La prime Covid est une décision des autorités politique du Conseil d'État validé par le Grand Conseil et les critères d'attribution de cette prime ont été définis là aussi par l'autorité politique.
Des propos recueillis par nos confrères de LFM. Notons encore ces chiffres. Depuis mars 2020, le CHUV annonce avoir pris en charge plus de 2000 patients Covid, dont 370 en soins intensifs. Une mobilité sans énergie fossile à l'horizon 2050, c'est possible selon l'ATE. L'association de transport et environnement a présenté hier différents scénarios en ce sens. Pour elle, le constat est clair, il ne faut pas rester les bras ballants après le rejet de la loi sur le CO2. Certes, ce projet aurait constitué une base intéressante pour déployer de nouvelles ambitions. Néanmoins, une évolution positive est encore envisageable, pour autant que tous les acteurs concernés combinent leurs efforts. Les explications de Stéphanie Penner, responsable politique des transports et campagne au sein de l'ATE.
On a besoin d'une large combinaison de mesures à tous les niveaux politiques. Et pour réaliser les objectifs, il faut des mesures qui sont dans le domaine de la technologie, mais aussi dans le domaine de la demande des transports. Donc c'est une combinaison entre le transfert technologique rapide des énergies fossiles aux énergies électriques et aussi une réduction de la demande des transports. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un point très important, c'est qu'on doit se dépêcher de mettre ces mesures en œuvre. Et pour nous, il faut au plus tard, en 2025, qu'elle soit mise en œuvre.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Hélène Yost. Les coûts de cette transition ne sont pas articulés précisément. Parmi les mesures concrètes prônées par l'association, on citera par exemple l'interdiction d'homologuer des voitures avec des moteurs à combustion d'ici 2030, ainsi que l'amélioration du réseau des pistes cyclables. À l'étranger, des centaines de militaires en retraite, soutien de la candidate de droit Keiko Fujimori, ont manifesté hier à Lima pour dénoncer des fraudes présumées lors du second tour de la présidentielle au Pérou. Les résultats officiels ne sont toujours pas connus. Les manifestants ont repris à leur compte les accusations de fraude lancées par la candidate de la droite populiste Keiko Fujimori en ballotage défavorable au second tour de la présidentielle du 6 juin. Après le dépouillement de 100% des bulletins, le candidat de la gauche radicale Pedro Castillo, un instituteur et syndicaliste, est en tête du deuxième tour avec 50,12% des suffrages, soit une avance d'environ 44 000 voix sur sa rivale. En hockey sur glace, l'ancien international suisse Goran Bezina a toujours le feu sacré. Le Montezan de 41 ans effectuera une nouvelle saison avec Sierre en Swiss League. Né en Croatie, Bezina avait quitté Genève Servette au terme de l'exercice 2008-2019 avec 14 saisons passées au Vernet. Lors du dernier championnat, il a disputé 50 matchs pour la formation valaisanne pour 7 buts et 18 assists. Si tout se passe bien, l'hiver prochain, il pourra dépasser les 1000 matchs dans les deux plus hautes ligues suisses. Et la délégation ougandaise, arrivée samedi à Tokyo pour les Jeux Olympiques, a été placée en quarantaine après un cas positif au Covid-19. Les 8 membres de l'équipe qui accompagnaient un entraîneur testé positif à sa descente d'avion ont été déclarés cas contact et seront placés en quarantaine jusqu'au 3 juillet. Samedi, les membres négatifs de l'équipe avaient été autorisés à se rendre dans leur camp d'entraînement, tandis que leur entraîneur a été isolé. Il s'agit du premier cas positif concernant un participant au JO qui doit débuter le 23 juillet.